Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Vivante Église, alors que commence la deuxième journée de notre Radio Don 2024. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, nous l'avons placé sous le signe de l'espérance, la deuxième vertu théologale. Et c'est à l'espérance que nous allons consacrer cette émission avec mes trois invités, Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités et membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, le père François Daguet, frère dominicain, docteur en théologie, et le père Tagnos, curé de la mission maronite de Toulouse. Bienvenue à tous les trois et merci d'avoir accepté mon invitation à échanger autour de la vertu d'espérance, thématique donc de ce Radio Don 2024. Et pour ceux qui veulent apporter leur soutien financier à Radio Présence, je signale que vous pouvez faire vos promesses de dons en appelant le 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Vous pouvez aussi faire directement un don en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. L'espérance, deuxième des trois vertus théologales aux côtés de la foi et de la charité. Et je vais tout de suite me tourner vers le père François Daguet afin qu'il nous rappelle ce qu'est l'espérance pour nous chrétiens et ce qu'implique le fait qu'elle soit une vertu théologale.
Et oui, évidemment, c'est le qualificatif de théologal hein, qui demande souvent des précisions. Hein. Bah, théologal, c'est que veut exprimer que cette vertu, donc, qui est une qualité hein, de l'âme, une perfection, eh bien, elle a Dieu pour origine et elle a Dieu pour objet. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a Dieu pour origine, c'est-à-dire que c'est un don de Dieu, comme la foi, comme la charité, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des vertus que nous pouvons acquérir par nous-mêmes hein, en posant des actes successifs. C'est un don de Dieu. Et elle porte sur quoi, plus précisément, toutes les trois vertus théologales ont Dieu pour objet, mais elle porte précisément sur les biens que Dieu nous promet. Et les biens que Dieu nous promet, très concrètement, c'est sa présence, c'est la participation à sa propre vie, qu'on appelle couramment la grâce, hein, ici-bas, dès maintenant, et la plénitude de cette vie dans la vie éternelle que l'on appelle la gloire, par exemple. Voilà. Donc, la vertu théologale d'espérance, elle porte, et ça je crois que c'est important, sur quelque chose qui nous est déjà donné. C'est pas seulement, vous voyez, pour l'avenir. Hein, oui, j'espère que plus tard ce sera mieux. Non. Oui, il y a un objet de la vertu d'espérance pour le futur et notamment la vie éternelle. Mais nous croyons, et c'est un spécifique, si vous voulez, de la vertu d'espérance chrétienne, que nous vivons déjà de façon commencée de ce que nous vivrons en plénitude plus tard. Vous voyez ? Et je crois d'ailleurs que vous voyez, c'est une des grandes différences, en tout cas une des différences entre l'espérance humaine, l'espoir, si vous voulez, et l'espérance chrétienne. Humainement, si j'espère, ben j'espère quelque chose que je ne possède pas aujourd'hui. Que demain, j'espère que demain, je le posséderai. Dans l'espérance chrétienne, je possède déjà ce que j'espère vivre en plénitude plus tard.
Alors, j'allais justement vous poser la question, quelle serait la différence entre l'espérance et l'espoir ? Est-ce qu'il faut voir l'espoir comme une sorte de version sécularisée de l'espérance ?
Pas nécessairement, peut-être, hein, dirais-je, parce que au fond, humainement parlant, il est tout à fait légitime d'espérer, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je crois que c'est tout à fait enraciné dans notre nature, parce que comme il y a en chacun de nous, au fond, un appel à un plus grand bien, à une perfection pour soi et pour les autres, si vous voulez, il est légitime d'avoir une espérance ou un espoir humain que les choses soient meilleures, si vous voulez. Ça, je crois que c'est très important. Hein. C'est viscéralement enraciné en nous. Hein. Donc, je crois que c'est d'abord quelque chose de naturel. Ce n'est pas nécessairement, vous voyez, un démarquage profane ou sécularisé de la vertu théologale d'espérance. En revanche, ce qu'il arrive, c'est que on confonde les deux, si vous voulez. Je pense en particulier, les plus anciens ont connu ça, si vous voulez, pour parler un peu trivialement, mais les lendemains qui chantent du Parti communiste.
Oui.
Bon, vous voyez, hein, où, on attend, vous voyez, alors, c'est l'objet d'un espoir, pour le coup, de quelque chose. Et là, je crois que c'était une espèce de sécularisation de l'espérance chrétienne, si vous voulez. Mais, humainement parlant, espérer, bah, je crois que rien n'est plus légitime pour chacun de nous.
Je vais citer un écrivain romancier qui a beaucoup réfléchi sur la notion d'espérance, qu'il a beaucoup intégré dans ses romans, c'est Georges Bernanos. Je vais vous lire un extrait de Monsieur Wynne. L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
Ben, je crois qu'il met le doigt sur quelque chose d'extrêmement profond, si vous voulez, sur la vertu d'espérance. C'est qu'elle porte, vous voyez, je le disais il y a quelques instants, sur la présence, le don que Dieu fait de lui-même. Et au fond, pour s'appuyer vraiment là-dessus, c'est ça qui est très étonnant. C'est qu'il faut en quelque sorte avoir fait l'expérience que s'appuyer sur tous les biens humains ou les espoirs humains ne nous satisfera pas et n'aboutira pas. Et je suis frappé en réécoutant paroles de M. Wynne, hein, que, de retrouver exactement ce que dit Benoît XVI. Hein, il a consacré une encyclique, hein, Spe Salvi, sauvé en espérance, sur le sujet. Et il dit bien ça. Et alors, pourquoi, comment on peut éclairer ça ? C'est que, vous voyez, le danger, quand on a des biens humains, ne serait-ce que ses propres qualités, si vous voulez, c'est de se fonder sur soi-même pour réaliser un plus grand bien pour soi ou pour les autres. Et finalement, on est toujours déçu. L'espérance chrétienne, elle se fonde sur le don que Dieu fait de lui-même. Est-ce que c'est vraiment Dieu que je choisis et sur lequel je me fonde, qui est mon assurance en quelque sorte, j'allais dire mon assurance vie, ou bien ce sont des garanties humaines sur lesquelles je fonde mon espérance qui va me décevoir.
Alors, on reparlera peut-être de tout ça et notamment d'un aspect, moi, qui me semble important. Faut-il avoir fait l'expérience du désespoir pour arriver à la véritable espérance ? On garde ça pour plus tard. Je vais d'abord donner la parole à Marie-Christine Monnoyer. Quelle serait votre définition personnelle de l'espérance au-delà de ce qu'elle est en tant que vertu théologale ?
Je ne sais pas la définir. Je ne sais pas la définir et j'ai envie de vous répondre par la désespérance. Je trouve qu'aujourd'hui, en particulier dans notre Europe, mais c'est aussi vrai ailleurs, on est confronté à la question de la désespérance. Parce que ce qui est au-dessus de nos têtes, parce que les décisions qui ont été prises ou celles qui ne sont pas prises, conduisent à faire l'expérience d'un certain désespoir. En particulier quand on est jeune. Quand on est jeune, parce que se projeter sur l'avenir devient compliqué. Vous voyez, je n'ai pas dit espérer, j'ai dit se projeter sur l'avenir est compliqué. Il est compliqué parce que le climat, parce que la guerre en Europe, parce que quand on est jeune, on n'a pas fait l'expérience des grandes difficultés qu'ont vécues les générations de leur père et de leur grand-père, par exemple d'un conflit européen, ou de la rencontre avec des conflits complexes comme ceux de la colonisation, cette expérience-là, ils ne l'ont pas. C'est aussi bien. Mais elle conduit à rendre encore plus difficile l'acceptation d'une situation qui paraît bloquée. Et donc, elle conduit à la désespérance. Alors, toute la difficulté de tous ceux qui accompagnent les jeunes, c'est de les faire passer de la désespérance à l'espérance. Alors, à l'espérance, vertu théologale, mais aussi à l'espérance, espoir laïque. Parce que comment peut-on passer ? Et la phrase que vous venez de donner de Bernanos, elle est exactement celle-là. C'est-à-dire, ils sont en train de faire l'expérience de quelque chose qui paraît bloqué, complexe, catastrophique. Est-ce que cela va leur permettre de passer à l'espérance? Je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'abord de la génération d'au-dessus, de ceux qui les accompagnent, et de la façon dont cet accompagnement va avoir lieu. Mais elle ne dépend pas que de ça. Moi, je relisais ces jours-ci l'encyclique Dilexit Nos, Il nous a aimés. Et au fond, c'est peut-être un lien. Il y a là, à mon avis, un lien. Parce que penser que nous sommes aimés, sur le plan laïque, c'est déjà une force. Tous ceux qui ne se sentent pas aimés ont encore plus de mal à passer à l'espoir que si vous avez l'impression que vous êtes accompagné par ce que vous êtes. Mais si on se sent aimé par Dieu, là, il est plus facile de passer à l'espérance parce qu'on n'est plus dans la solitude de l'angoisse. Et personnellement, cela me frappe beaucoup. Alors, ce que je constate avec certains jeunes, c'est que ils se disent « je peux faire des choses ». Et ceux qui se disent ça, généralement, c'est ceux qui sont aimés. Qui se sentent aimés par Dieu ou qui sont aimés par leur famille, par leurs amis, etc. Et là, ils trouvent des actions qui leur permettent d'appuyer sur la désespérance. Vous savez, comme quand on rebondit, quand on est au fond de l'eau. Et il me semble que moi, ça me donne de l'espoir. Et ça me donne des forces pour les accompagner. Mais voilà, j'en suis là. Donc, je ne vous définis pas l'espérance.
Oui, alors, ce qu'il faudra qu'on l'évoque aussi, je pense, c'est qu'il y a peut-être aussi un devoir d'espérance, notamment pour un chrétien, en termes d'exemplarité et des aînés pour les plus jeunes. On va parler maintenant avec le père Tanios, qui doit normalement être au téléphone avec nous. Il n'a pas pu être présent. Je le salue. Père Tanios, que représente l'espérance pour vous? Quelle signification lui donnez-vous dans votre vie personnelle et plus encore en tant que prêtre?
Bonjour Eric et bonjour à tous vos invités. L'espérance, c'est la confiance en Dieu et en son plan d'amour. Même lorsque les circonstances, parfois qui semblent très obscures ou désespérées, la personne elle reste confiante en Dieu et en son plan d'amour. Saint Paul écrit, Romains 5, l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc je crois que l'espérance, elle n'est pas un simple optimisme ou une projection humaine, mais vraiment une certitude que Dieu est fidèle à ses promesses, que Dieu il est à l'œuvre dans l'histoire. Et l'espérance, elle aide chaque fidèle à préserver sa foi, à vivre en cohérence avec l'Évangile, même dans les moments de souffrance ou d'incertitude. Et il faut bien dire que l'espérance, car moi je suis donc curé de la mission maronite de Toulouse et j'ai 500 jeunes étudiants libanais qui sont venus récemment après la crise économique et la guerre au Liban. Donc je leur dis toujours que l'espérance, elle ne nie pas les douleurs ou les épreuves, car toujours ils se posent la question, où est Dieu et comment il accepte qu'il y a une guerre, comment il accepte que les gens souffrent, que les personnes souffrent, que des enfants sont sur la rue. Donc l'espérance ne nie pas la douleur ou les épreuves, mais l'espérance, elle aide la personne à traverser avec la lumière du Christ toutes ces épreuves. L'espérance, elle offre une consolation, elle nous donne une force de continuer, sachant que Dieu est toujours présent à côté de nous.
Beaucoup de Libanais vivant à Toulouse viennent à la mission maronite et assistent aux messes que vous célébrez. D'ailleurs, certains sont, il y a même des musulmans, je sais, hein, qui viennent assister à vos messes. Est-ce que vous êtes vraiment très souvent confronté à des gens qui ont perdu l'espérance ?
Oui, beaucoup. Donc, vous savez, donc, depuis notre histoire au Liban, donc depuis la guerre de 1975, et bien avant aussi, et récemment, l'explosion de Beyrouth, la crise économique, et maintenant la guerre. Donc, et surtout les jeunes, ils me disent, mais après tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on peut plus. On a perdu tout. On a perdu nos maisons, on a perdu nos familles, on a perdu tout ça. Et je vois que les personnes, et récemment, donc après la guerre, donc en septembre, ils étaient vraiment, les jeunes, très désespérés. Et moi, quand je suis revenu sur Toulouse, du Liban, donc avant 2 semaines de la guerre, aussi j'étais très, très, très désespéré. Et je les comprends très, très bien. Même j'ai senti que j'ai senti la peur même de dire la messe devant les gens. J'étais un peu déstabilisé. Pourquoi Dieu il accepte tout ça? Pourquoi il nous sauve pas de tout ce que se passe dans notre pays, pas seulement notre pays, tout le monde. Et puis vraiment, vraiment j'ai expérimenté une épreuve et vraiment par la prière et par la solidarité des gens à côté de moi, ça m'a beaucoup aidé à continuer la mission.
François
Et
Daguet, Père François, quand vous entendez ça, bon, je pense que vous êtes aussi confronté, vous, parfois, à des gens qui ont
sûr.
totalement perdu l'espoir, qui n'ont plus l'espérance. Quel discours vous leur tenez?
Oh, ce serait bien prétentieux de ma part de leur tenir un
Alors,
discours,
un
vous savez,
discours,
hein.
en tout cas, que leur dites-vous pour essayer de leur rendre l'espérance, ou les remettre sur le chemin
Mais moi, ce
d'espérance?
qui me frappe, si vous voulez, c'est l'expérience plusieurs reprises, n'est-ce pas, que j'ai faites face à des personnes menacées par la désespérance. C'est précisément le moment où, si elles y parviennent, si elles en ont le désir, et c'est un peu ce que disait Bernanos, elles vont faire l'expérience envers et contre tout d'une présence intérieure de Dieu, si vous voulez. Vous voyez, ça m'a toujours touché. Je me souviens notamment de témoignages d'enfants qui avaient vécu des choses vraiment terribles. C'est terrible le désespoir des enfants, hein.
Absolument.
Et plusieurs m'ont dit, je sentais que Dieu était là. Vous voyez, et c'est comme ça que j'ai tenu. Vous voyez, c'est là que vous voyez que nous approchons quelque chose d'un peu indicible. C'est la question que vous souleviez. Faut-il aller jusqu'au bout de la désespérance pour rencontrer Dieu qui est présent, parce qu'il nous aime et qu'il nous promet qu'il ne nous lâchera pas. Vous voyez? Donc, vous voyez, j'ai pas de discours à tenir, ce serait insupportable, je crois d'ailleurs. Mais appelons-le, demandons-lui de se rendre présent au cœur. Vous voyez, de la misère, de la souffrance. Vous savez, si, je pensais à ce que disait Marie-Christine Monnoyer, si le pape François insiste tant sur la place et le rôle des pauvres, c'est pas de l'humanitaire, hein. C'est parce que précisément les pauvres, la pauvreté radicale, c'est précisément de ne plus pouvoir se fonder sur soi ou sur quoi que ce soit qui m'entoure, si vous voulez. Et c'est le pauvre qui va me dire que Dieu est là aussi, envers et contre tout, parce qu'il m'aime. Parce qu'il aime chacun de nous, parce qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. L'espérance, voyez, la vertu chrétienne d'espérance, elle se fonde sur, j'emploie le grand mot, hein, la providence de Dieu. Je pourvois, je suis là, je ne te lâcherai pas. Alors même que tu n'as plus rien. C'est pour ça que les paroles du Père Tagnos sont très émouvantes.
Elles sont très fortes, oui,
Je
très très
comprends
fortes.
très très bien ce qu'il dit.
Marie-Christine Monnoyer voulait peut-être réagir à ce qu'a dit le Père Tagnos, à ce que vient de dire le Père François Daguet.
Alors, je ne peux pas ne pas être d'accord. Je ne peux pas ne pas aller dans ce sens du fait que la présence de Dieu au fond de votre cœur, au fond de votre être, est un appui, est une source à la fois d'espoir, une source de force et même une source d'enthousiasme. Mais je pense à tous ceux qui nient l'existence de Dieu et donc qui ne n'entendent pas, qui ne sentent pas, qui se moque de la présence de Dieu. Et donc à cela, il me semble que la pratique de l'amour au sens large, l'amour de ses frères, l'amour des autres, l'amour qu'on trouve dans le collectif de l'action, c'est une voie vers la découverte de ce que peut être l'espérance. Parce que François Daguet disait à l'instant, je ne peux pas faire un discours. Et c'est vrai, faire un discours à quelqu'un qui vous dit que Dieu n'existe pas et vous lui dites, je ne le sens pas, je ne le crois pas, bah, que voulez-vous faire un discours? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et à la limite, c'est contre-productif. Mais en revanche, faire comprendre qu'on peut être aimé et que par l'amour que l'on donne et l'amour que l'on reçoit, on change le regard sur la vie, on change sa position dans la société. Parce que ce qui est très fort dans la parole des pauvres, quand on est dans un groupe en très très grande difficulté, c'est le fait qu'ils ne sont pas forcément désespérés. Et parfois même, ils sont plus pleins d'espoir que des gens nantis, qui n'ont ni faim ni froid, etc. Ils sont pauvres de chez les pauvres, et pourtant ils ne sont pas forcément seuls, et pourtant ils sont sensibles à la beauté, et ils vous disent « le monde est tellement beau que forcément Dieu existe ». Mais à celui qui le nie, et dans la jeune génération il y en a beaucoup, il nous faut trouver un langage, un passage. Pour moi, ce passage passe par l'amour avec les autres et la découverte de ce que, lorsqu'on donne de l'amour, ce que cela donne à l'autre, la force que cela lui donne. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Et il me semble que cette découverte, tout le monde peut la faire. Tout le monde peut la faire à un moment de sa vie et peut-être est-ce le chemin vers la foi. En tout cas, c'est le chemin vers une vie plus ouverte, moins repliée sur soi. Parce que lorsqu'on est dans désespérance complète, crac, on se referme comme une huître. Et vous savez bien que la coquille de l'huître, si vous ne trouvez pas le passage, elle ne s'ouvre pas. Il faut trouver le passage.
Nous allons faire une pause musicale dans cette émission, mais avant cela, je refais un appel aux dons à tous les auditeurs qui nous écoutent. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à produire des émissions comme Vivante Église et pour assurer de manière générale le fonctionnement et le développement de Radio Présence. Pour faire vos promesses de dons, il faut appeler le 05 62 48 63 00 et pour faire directement un don en ligne, je vous invite à vous connecter à notre site internet à l'adresse www.radioprésence.com. La résurrection du Christ est au cœur de notre espérance à nous chrétiens. Elle a inspiré de nombreux compositeurs, notamment Jean-Sébastien Bach dans sa fameuse messe en si mineur. Voici un extrait. Être résurrexit et il ressuscita. On écoute une version dirigée par Philippe Hervaig. Thank you.
Église, Éric Dupri.
Nous revoici à l'antenne avec mes invités, Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, le père François Daguet, frère dominicain, docteur en théologie, et le père Tagnos, curé de la mission maronite de Toulouse. L'espérance est le thème de notre Radio Don 2024, pour lequel j'invite de nouveau nos auditeurs à faire leur promesse de don en appelant le 05 62 48 63 00. Il peut faire également un don directement en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. On vient d'écouter une œuvre, un passage en tout cas de l'œuvre en question, où il est question de la résurrection. Père François Daguet, la résurrection, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre espérance, la foi en la résurrection du Christ.
C'est le grand fondement de notre espérance, parce que la résurrection du Christ, c'est la victoire de la vie de Dieu sur toute mort. Et précisément, lorsque on est saisi par le désespoir et la désespérance, au fond, c'est la mort. Le terme, c'est la mort, ou c'est la mort déjà présente qui s'empare de nous. Et précisément, la résurrection du Christ, je dirais non, je suis plus puissant que cela, et je suis capable de te rejoindre jusque dans ta mort actuelle. Parce que, bien sûr, le Christ n'a pas supprimé la mort. Espérer en Dieu ne va pas supprimer, je dirais, ma misère matérielle immédiate. Mais Dieu a traversé la mort, il l'a pris sur lui et il me rejoint dedans. Voyez. Et c'est là, évidemment, c'est ça qui est très délicat. C'est ce qui est difficile souvent à atteindre. C'est ce que disait Marie-Christine Monnoyer. Je suis d'accord avec elle lorsqu'elle dit que, tout à fait, il faut trouver une passerelle. Et la passerelle, c'est ce que vous avez dit, c'est la charité. C'est la charité. C'est rejoindre la personne autant que possible, jusque dans son désespoir, en lui témoignant qu'elle m'importe. Voyez, l'espérance, voyez, on a parlé d'espérance théologale, n'est pas seulement une vertu individuelle, elle ne peut pas l'être. Hein. On espère aussi pour tous, hein. Et d'ailleurs c'est un des grands thèmes de la théologie contemporaine, espérer pour tous. Hein. Et donc, on supplie aussi Dieu de se rendre présent à celui qui est accablé par la misère.
Père Tagnos, je pense que vous nous écoutez encore. Lorsque vous êtes face à des gens qui ont perdu l'espoir, qui ne sont plus dans l'espérance, est-ce que vous leur parlez de la résurrection du Christ ?
Toujours, je suis confronté à à une question que est-ce que il faut attendre la vie après la mort pour avoir l'espérance. Donc, comme tout ce que se passe ici, donc que l'Église toujours elle dit aux gens, oui, le Christ est mort et ressuscité, et après, il faut que vous passez par beaucoup d'épreuves, passez par beaucoup de choses, et après la mort, vous allez avoir la vie éternelle avec Jésus. Donc, les jeunes me posent beaucoup cette question. Donc, comme si un peu l'espérance est une utopie. Je reviens un peu à l'encyclique Pius Albi de 2007 du pape Benoît XVI, qui décrit l'espérance comme une ancre qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie. Et il souligne que l'espérance n'est pas uniquement pour l'au-delà, mais qu'elle transforme aussi le présent en nous donnant la force de persévérer. Donc je le cite, celui qui a l'espérance vit différemment, une nouvelle vie lui est donnée. Donc, Benoît XVI, il nous rappelle que l'espérance chrétienne, elle dépasse les solutions humaines. Donc, elle repose sur la certitude que Dieu agit aujourd'hui, maintenant, dans notre histoire, et que la résurrection de Jésus est la preuve ultime de cette espérance. Donc, si ces jeunes que je les accompagne, je ne les aide pas à vivre, malgré la situation difficile qu'ils sont en train de traverser, une espérance ici, que le Christ, il est né et mort et ressuscité aussi aujourd'hui, et vous, dans chaque acte que vous le faites, je crois que je ne peux pas seulement leur dire que leur promettre, c'est pas moi, c'est Dieu, donc de porter les paroles de Dieu que après la mort, vous allez avoir une vie meilleure avec le Christ. Ça va maintenant passer un moment un peu difficile, ce sont des épreuves. Donc, et après la mort, vous allez avoir une vie meilleure. Et je crois que beaucoup, ça m'a aidé que la vie en communauté, donc, et la solidarité entre la communauté et la prière aussi communautaire qui était vraiment une arme très puissante pour la communauté ici, pour vivre, pour résister au désespoir. Donc l'espérance, elle s'est nourrie de parfois des actions qui sont très petites entre les jeunes, entre les familles et les jeunes, donc qui vraiment étaient une concrétisation de l'espérance.
Je pense qu'une société dont les jeunes ne vivent plus dans l'espérance est une société malade et même une société en danger de mort. Vous disiez quelque chose qui me paraît très juste et j'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans cette émission. Il y a un devoir, une espèce d'exemplarité à être dans l'espérance, notamment pour les aînés vis-à-vis des jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ce devoir d'espérance pour le chrétien?
Sûrement c'est un devoir chrétien, mais il faut que, en tant que prêtre qui accompagne ces jeunes, je commence par moi de vivre un peu l'espérance, avant de lui donner à l'autre, avant de lui transmettre à l'autre. C'est-à-dire, avant de parler de l'espérance, car oui, comme j'ai dit, donc, parfois je perds l'espérance. Je ne peux pas dire, je ne peux pas nier cela. Parfois je passe par des crises de foi, je dis, je n'en peux plus. Je suis arrivé à un point que Dieu, j'en peux plus. Mais après ces moments d'épreuve, après ces moments de faiblesse, de désespoir parfois, je remets tout à Dieu, je mets toute ma confiance en lui. Et puis, vraiment, quand je sens cette espérance, cette confiance en lui, son amour, avec la prière personnelle, la prière communautaire, avec la solidarité, avec tout ça, je peux parler d'un devoir de parler à eux. Mais je peux, pour moi, c'est très difficile de parler de l'espérance si, en tant que prêtre, en tant que personne, je ne la sens pas.
Oui, bien sûr. Frère François, ce devoir d'espérance, alors quand je parlais de devoir d'espérance, ce n'est pas de dire à l'autre « tu dois être dans l'espérance », c'est de montrer par son comportement, soi-même, que nous sommes dans l'espérance nous-mêmes. Est-ce que le chrétien doit effectivement montrer une certaine exemplarité dans ce domaine?
Oh, exemplarité, là encore, c'est un bien grand mot.
Donner l'exemple, en tout cas.
Voilà, en tout cas, témoigner d'eux. Mais vous voyez, ce qui est très, très bouleversant dans le témoignage du Bertagno, c'est, nous pensons tous à ce qui se vit, en particulier dans son pays, hein, et nous avons de multiples, justement, témoignages à ce sujet-là, c'est que c'est cette expérience du fait que il n'y a plus de perspective humaine, il n'y en a pas à vue humaine, voyez. Et donc, c'est très difficile de dire il y a un devoir d'espérance, jamais je n'oserais le dire. En revanche, ça me renvoie à moi-même. Est-ce que je témoigne véritablement de l'espérance?
C'est ce que je voulais dire.
De l'espérance qui m'habite, voyez-vous. Est-ce que je ne risque pas, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait, de me fonder sur des sécurités finalement assez humaines, voyez, pour dire, mais non, ça ne va pas si mal. Ou ça... Voilà, non. Justement, Témoigner de l'espérance chrétienne, c'est témoigner que ce sur quoi on se fonde, c'est la présence actuelle et agissante de Jésus-Christ dans la vie des hommes. Voyez, et donc, si j'ose dire, si nous avons un devoir, c'est de nous, convertir pour en vivre chacun, chaque jour davantage. Et alors, le témoignage, si vous voulez, il sera sonté. C'est dans la mesure où je vis de cela que j'en témoignerai. Mais ce n'est pas à travers un discours espérer. Non, non, ça n'a pas de sens.
Marc-Christine Bonnoyer.
Étant donné l'exemple qui vient d'être donné par le Père Théos, moi j'ai envie d'en prendre un autre. Il y a en France un grand nombre de familles qu'on appelle monoparentales, ce qui est une façon un petit peu générale de dire que ces familles sont gérées, vivent avec seulement une mère et pas un père. Or la vie de ces familles monoparentales, de ces femmes avec enfants, est une vie très souvent de pauvreté, et nous le savons, puisque l'essentiel des enfants pauvres sont des enfants qui sont dans une famille monoparentale. La force des femmes qui, parce qu'elles veulent pour leurs enfants un avenir meilleur sur Terre, où est-ce qu'elles la trouvent lorsqu'elles sont très souvent dans cette situation de pauvreté? Où est-ce qu'elles la trouvent? Elle la trouve dans l'amour qu'elle porte à leurs enfants. Elle la trouve dans les aides qu'elles peuvent avoir ou l'écoute qu'elles peuvent avoir. Elle la trouve aussi dans leur foi lorsqu'elles en ont une, quelle que soit leur foi. Mais lorsqu'elles sont porteuses d'une foi, elles se disent que c'est leur devoir, leur vie, mais aussi ce qu'elles peuvent donner de mieux à leurs enfants. Il me semble que cet exemple-là, qui est un exemple que nous avons tous les jours sous les yeux, il est proche de celui qui était indiqué sur les Libanais. Quand tout s'écroule, quand vous n'avez plus de maison et que vous avez les petits avec vous, où trouver cette force? Dans le fait que vous êtes la mère, aussi le père, mais ils sont très peu nombreux, la mère qui doit, parce qu'elle a donné la vie, aller plus loin que son désespoir immédiat. Et ça, c'est certainement quelque chose qui peut nous aider à comprendre ce que peut être l'espérance, une espérance accrochée à Dieu, une espérance accrochée à l'amour humain.
Une espérance dont notre vie témoigne, comme le disait le frère François. Est-ce qu'une radio comme la nôtre se doit d'être effectivement plus qu'aucun autre média, une passeuse d'espérance, et celle qui donne le micro au passeur d'espérance, frère François?
Forcément.
Parce qu'on dit souvent que les médias n'apportent que des mauvaises nouvelles et ne sont que la caisse de résonance de tous les malheurs du monde.
Ah ben, je crois profondément que, pour le coup, vous savez ça mieux que moi, je pense, mais que un média chrétien, comme on dit, a vocation à faire entendre une autre voix aussi, hein, non pas en gommant toutes les difficultés du monde contemporain, hein, loin de là, mais justement en témoignant de quoi, au fond? Du fait que l'horizon humain n'est pas celui qui se donne à voir immédiatement seulement, si vous voulez, qu'il y a une autre dimension, ce que disait le Concile Vatican II, si vous voulez. Hein. Et cette autre dimension, c'est la présence de Dieu au monde, tout simplement. Et la présence de Dieu au monde qui doit, en principe, rayonner par une présence des chrétiens au monde, justement. Vous voyez ? Et au monde, et donc à tous les hommes, quels qu'ils soient, hein, chrétiens ou non, bien entendu. Voilà. Et il me semble qu'une radio comme la vôtre, je veux dire, a cette vocation, hein, de rappeler cela. Et donc d'envoyer aussi, n'est-ce pas, tous ceux qui vous écoutent, auprès de ceux qui les entourent. Voilà. Et ça, c'est témoigner de l'espérance.
Eh bien, nous terminerons sur ce message. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été les invités de cette émission et d'y avoir apporté toutes vos précieuses contributions lors de nos échanges sur ce thème de l'espérance. dont Charles Péguy disait qu'elle est la vertu chrétienne par excellence. Je fais un dernier appel aux dons auprès de nos auditeurs. Pour faire vos promesses de dons, le numéro à appeler est le 05 62 48 63 00. Et pour faire directement un don en ligne, il faut vous connecter à notre site internet www.radioprésence.com. Ce numéro de Vivante Église était animé par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. Le radio-don se poursuit tout ce vendredi ainsi que demain, samedi. Nous comptons sur votre soutien et votre générosité. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. À bientôt.